constitution de la République centrafricaine est-elle aujourd'hui en sécurité? C'est la thématique de notre débat politique Patara de ce samedi 13 avril 2019 sur Radio Ndekeluka. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce débat. En effet, la question fait la une des réseaux sociaux mais aussi de la presse ces derniers temps en République centrafricaine. D'abord, ce passage en force de Joseph Bindounga, président du MDREC, devant la Cour constitutionnelle les 2 et 4 avril derniers. L'homme politique a estimé que les articles 23, 28, 38 de la Constitution ont été violés par le président de la République et par les rebelles, sans oublier les articles 29 et 43 de la Constitution centrafricaine. Devant cette situation, c'est la violation de son serment, donc le parjure selon Joseph Bindounga. Il y a ensuite toute la question de l'article 58 de la Constitution du 30 mars 2016 qui, lui, aussi souffre d'application. Cet article exige à tous les membres du gouvernement entrant et sortant de déclarer leurs biens avant et après leur prise de fonction, mais dans les faits, cette disposition de la loi n'est respectée ni par les deux premiers ministres du régime Touadéra, ni par les membres de leurs équipes. Une habitude qui ne semble gêner ni les sages de la Cour constitutionnelle, ni les autorités concernées. Des sources proches de la Cour constitutionnelle ont indiqué à Radio Ndekeluka que pour le gouvernement sortant, seuls Jean-Serge Bokassa et Charles Armel Douban, deux proches de Touadéra dont le gouvernement s'est rendu tombé en disgrâce, avaient honoré leurs engagements vis-à-vis de cette disposition de la Constitution. Certains députés de la 6e législature ne sont pas non plus épargnés. 127 sur 140 l'ont fait, tandis que 13 députés refusent de le faire pour des raisons inconnues à ce jour. Question : la Constitution du 30 mars n'est-elle respectée que selon le bon vouloir des autorités ? Cette Constitution est-elle aujourd'hui en sécurité ? Pour en débattre, je reçois autour de la table M. Mathurin Dimbélé Nakwe, député de Sosona Kombo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Honorable Mathurin Dimbélé Nakwe, bonjour.
Bonjour Hippolyte, bonjour à tous.
Monsieur Gaëtan Kongo, personnalité politique, responsable de communication du mouvement Kodroti Mokozosi de Jean-Serge Bokassa de l'opposition démocratique centrafricain vivant en France. Monsieur Gaëtan Kongo, que nous allons avoir dans ce débat par téléphone. Monsieur Gaëtan Kongo, bonjour.
Bonjour monsieur Hippolyte Mavo, bonjour à tous.
Et monsieur Eloge Doctrové Koy, rapporteur général de l'association Synergie Centrafricaine, une organisation politique qui soutient les actions du président Touadéra. Monsieur Eloge Doctrové Koy, bonjour.
Bonjour monsieur Hippolyte, bonjour honorable et bonjour à tous.
Herman Nambona est notre technicien du jour. Je suis Hippolyte Marbois à l'animation de ce débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Première question à vous, monsieur Gaëtan Kongo, de l'opposition démocratique. D'aucuns disent que la Constitution du 30 mars 2016 est la plus violée de toutes les constitutions centrafricaines. Êtes-vous d'avis ou non?
Bon, avant de répondre à cette question pertinente, il serait d'abord primordial pour nous qui sommes autour de cette table de faire un devoir de mémoire. Nous devons nous poser cette question. Quelles sont les causes qui ont engendré la rédaction de cette nouvelle constitution? Nous devons nous poser les bonnes questions avant de répondre à votre question. Ce qui a poussé à rédiger cette nouvelle constitution, c'est l'avènement de la SILECA. C'est le coup d'État de 2013. C'est la suspension de la constitution précédente. Donc, voilà, cette nouvelle constitution a été rédigée afin de ne plus vivre ce que le pays avait connu. Et pour faire court, ceci étant dit, je pense tout à fait que cette constitution est violée, ne cesse d'être violée, et je pense que ce continuera à être violé par le pouvoir en place, notamment par le président de la République, le professeur Faustin Korchtadjian.
Oui, vous avez quelques éléments pour certifier ces éléments de violation?
Le premier exemple, je veux donner un exemple, hein, un exemple qui date de hier ou avant-hier. Mm-hmm. Avez-vous vu l'intervention du Premier ministre dans la cour de la SRI?
Oui.
Avez-vous vu cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui a circulé un peu partout? Il faut qu'on le sache que c'est que la Constitution centrafricaine, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif et il y a le pouvoir judiciaire. Mmh. Pensez-vous normal de voir un Premier ministre aller dans une cour, passer un serment avec, ok, ce sont des rebelles, mais passer un serment, il n'aurait-il pas fallu que ce soit le procureur de la République qui fasse un point de presse? Il y a un mélange de genre. Est-ce que le Premier ministre est un procureur?
D'accord. Merci à vous, Monsieur Congo. Nous allons donc continuer ainsi de faire le tour de table avec les invités qui sont avec nous au plateau directement. Vous restez toujours en ligne. Hein. Justement, quand je parlais des articles 23, 28, 38, 29, 43, il faut quand même résumer à quoi cela renvoie pour la meilleure compréhension des auditeurs qui nous suivent aussi. Ces articles font justement allusion à des personnes qui auraient porté atteinte à la souveraineté de l'État à travers leurs actes, des actes de rébellion ou de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et qui aujourd'hui sont appelés à exercer des fonctions publiques. Il y a également cette absence d'action du chef de l'État censé prendre des mesures qui s'imposent en cas d'agression du territoire national, allusion également faite aux actes de rébellion dans ce pays et également la transformation des groupes armés en partis politiques. Tous ces éléments qui sont aujourd'hui rejetés par la constitution centrafricaine et d'aucuns disent que cette constitution est la plus violée. Est-ce que c'est aussi votre avis, honorable Mathurin Dimbélé?
Je vous remercie, Hippolyte. Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire qu'il faut être sur le territoire national pour vivre les réalités avant de dire n'importe quoi, et surtout sur les ondes. On ne peut pas avoir été dans un gouvernement, travailler avec ce gouvernement auprès du président supposé violer les constitutions aujourd'hui, être renvoyé du gouvernement pour se mettre dans l'opposition. C'est très facile ça. C'est vraiment très facile c'est pas honnête. C'est vraiment pas honnête. Pour répondre à votre question, je voudrais d'abord lire le serment et que vous suivez bien, que le peuple suive ce serment-là. Parce que c'est sur la base de ce serment qu'on peut accuser le chef d'État d'avoir violé la constitution. Je lis le serment. Moi, donc, Faustin Archange, toi diras certainement, je jure devant Dieu et devant la nation d'observer scrupuleusement la Constitution, de garantir l'indépendance et la pérennité de la République, de sauvegarder l'intégrité du territoire, de préserver la paix, de consolider l'unité nationale, d'assurer le bien-être du peuple centrafricain, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge sans aucune considération d'ordre ethnique, régional ou confessionnel, de ne jamais exercer les pouvoirs qui me sont dévolus par la Constitution à des fins personnelles, ni de réviser le nombre et la durée de mon mandat, et de n'être guidé en tout que par l'intérêt national et la dignité du peuple centrafricain. Mmh. Il y a des passages sur lesquels je voudrais revenir. Sauvegarder l'intégrité du territoire, préserver la paix, consolider l'unité nationale, assurer le bien-être du peuple centrafricain. Voilà ce que dit le serment prêté par le président de la République. Alors, on parle de violation de plus en plus parce que le président de la République aurait nommé des membres des groupes armés.
Oui, des étrangers surtout.
Des étrangers. Qui peut savoir que tel ou tel est étranger aujourd'hui? Qui peut le savoir? Qui? Quelles preuves nous avons pour dire que telle personne ou telle autre personne est étrangère aujourd'hui en République centrafricaine? Alors, ceci dit, le chef de l'État a l'obligation de sauvegarder l'intégrité du territoire national, d'assurer la paix dans son pays, de préserver la sécurité des centrafricains. À un moment donné, nous tous, sauf ceux qui sont à l'extérieur, nous tous, nous étions à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a eu dans ce pays-là les Sangaris qui sont venus, la mission Sangaris. Est-ce que cette mission-là a rétabli la paix en Centrafrique? La réponse est non. Aujourd'hui, il y a la MINUSCA. Est-ce que la MINUSCA a rétabli la paix en Centrafrique? La réponse est non. Quels sont les moyens? Aujourd'hui, l'armée nationale est sous embargo. Quels moyens le chef d'État devait avoir pour assurer la paix à la République centrafricaine, pour préserver l'intégrité du territoire national centrafricain, pour assurer la sécurité des Centrafricains? Alors donc, le chef d'État était obligé de négocier avec ceux qui sont en face. Et ça existe partout. Quand Nelson Mandela est sorti de prison, Nelson Mandela n'a jamais demandé aux Noirs sud-africains de tuer tous les Blancs qui les massacraient à l'époque. En Colombie, il y a eu la guerre. Pendant des années, ils sont obligés de négocier. Ils étaient obligés de négocier. Au Sud-Soudan, il y a eu la guerre. Pendant des mois, les Sud-Soudanais étaient obligés de négocier. C'est ce que nous avons fait. Et j'ai dit qu'à cette négociation-là au Soudan, toutes les couches de la RCA étaient là. Toutes les couches. Les députés de l'opposition étaient là. Les députés de la majorité étaient là. Les députés soi-disant centristes étaient là. La société civile était là. La plateforme religieuse était là. Et nous avons participé à cette négociation-là. Tout ce qui est contenu dans cet accord-là, nous l'avons lu. Nous l'avons accepté. il a été signé avec l'accord de tout le monde. La communauté internationale, monsieur, la communauté internationale soutient cet accord-là. On ne va pas dire que toute la communauté internationale est imbécile. Moi, je ne crois pas que nous soyons raisonnables.
Justement, nous parlons, nous parlons de la Constitution.
Nous devons être sérieux.
D'accord.
Nous, Centrafricains, devons être sérieux.
Je vois que M. Gaëtan Kongo s'empresse de prendre la parole. Mais vu que vous êtes au téléphone, si vous parlez pendant que nous aussi, nous parlons ici, la compréhension sera difficile. Donc, je vous prie voilà, de prendre note. Et au moment de partage de parole, vous pouvez revenir sur ce que le co-débatteur a dit. Alors, comme vous vous empressez, je vous donne très rapidement la parole pour rebondir et avant de passer au troisième co-débatteur. Oui, sur ce point précis.
Merci, monsieur. Juste deux points. Prenons un peu de hauteur, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'étranger que nous n'aimons pas notre pays. Ceci étant dit, passons. Je veux juste rappeler que le sujet de ce jour, ce n'est pas les accords de Khartoum. On parle de la Constitution. Nous voulons tous la paix en Centrafrique. Nous voulons tous la paix. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la Constitution de la République centrafricaine, la Constitution du 30 mars 2016, et non des accords de Khartoum. C'est juste cela que je voulais rajouter. Donc, parlons de la Constitution, parlons des articles qui sont sans cesse violés par le président de la République. C'est ça que je voulais rajouter.
D'accord, merci. Nous allons donc revenir à vous tout à l'heure, Monsieur Eloge Dokrouveko, et nous parlons justement de cette Constitution du 30 mars 2016 qui souffre d'application à divers égards. Nous avons évoqué un certain nombre d'articles. Vous avez suivi Monsieur Gaëtan Kongo qui a fait allusion au non-respect des différents pouvoirs en Centrafrique, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, qui est déjà fait objet de violations de Constitution. Mais Monsieur Dimbélé a rappelé le serment du chef de l'État qui, selon lui, est aujourd'hui respecté par ce dernier. Vous, quel est votre avis à propos? Vous confirmez ou non la violation de la Constitution centrafricaine à l'état actuel?
D'emblée, j'infirme et je m'explique.
Allez-y, s'il vous plaît.
Merci, Hippolyte, et je vous remercie pour ce sujet vraiment important. Notre pays est passé par beaucoup de situations très difficiles. Le co-débatteur de Paris a souligné tout à l'heure un point que je considère comme une description de l'évolution de la Constitution centrafricaine depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et parlant plus précisément de l'élaboration de la Constitution du 30 mars, je pense que c'est une Constitution qui est issue d'un travail accru des Centrafricains et appuyé par la communauté internationale. Ce travail a abouti à cette Constitution. D'abord, au référendum, les 13 et 14 décembre 2015, où les Centrafricains massivement ont dit oui à cette Constitution. Et ensuite, elle a été promulguée le 30 mars à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président de la République. Mais lorsqu'on accuse, il faut apporter les preuves. Si le président de la République a violé la Constitution, mais il faudrait qu'on nous rapporte les preuves. C'est facile de dire que tel a violé la Constitution. C'est facile de dire que tel a fait ceci, tel a fait cela, mais où sont les preuves? Qu'est-ce qu'il a exactement posé comme acte qui est anticonstitutionnel?
Il n'a pas protégé l'intégrité du territoire national. Le territoire est agressé.
Hippolyte, vous savez, la question de protection de l'intégrité du territoire, merci de l'avoir évoqué. Et tout à l'heure, l'honorable a parlé de l'accord de Khartoum que mon co-débatteur de Paris rejette sous prétexte que ce n'est pas le sujet du débat. C'est vrai, ce n'est pas le sujet du débat, mais c'est associé à cela. Puisque quand on parle, c'est un accord politique. Et cet accord politique, vous savez, c'est vrai que juridiquement, ça n'a pas de valeur en tant que tel.
Par rapport à la loi nationale.
La loi nationale qui a le caractère de, comment dire, de suprématie et de l'exclusivité. Alors, lorsque nous nous tenons à cela, mais le chef de l'État est en train d'exercer pleinement le contenu de son mandat. Lorsqu'il accepte de négocier, alors que de signer un accord, alors qu'un accord politique qui est une norme inférieure à la norme première qu'est la Constitution, mais c'est déjà un effort qui tend vers des solutions correctives, des solutions pour ramener la paix, pour protéger l'intégrité du territoire. Mais je pense que si nous sommes sérieux, on ne peut pas évoquer cela comme une raison valable pour justifier une quelconque violation de Constitution.
D'accord, oui, merci à vous, monsieur Eloge Dokrouveko. Monsieur Gaëtan Kongo, si justement nous posons le débat dans ce contexte centrafricain où l'État peine à instaurer sa pleine souveraineté sur l'étendue du territoire, est-ce qu'on peut parler justement de violation de la Constitution?
Mais moi, je ne parle pas de violation de la Constitution par rapport à l'agression, parce que soyons réalistes, Les soubresauts militaro-politiques ont commencé depuis plusieurs années. Le président Touadéra n'était pas encore président de la République. Moi, je ne blâme pas, nous ne blâmons pas le président Touadéra par rapport aux rébellions, aux nombreuses rébellions. Nous blâmons le président Touadéra par rapport au dernier décret qu'il a pris. Il est stipulé dans l'article 28 de la Constitution que les auteurs, co-auteurs et complices des actes visés aux alinéas 1 et 2 sont interdits d'exercer toute fonction publique dans les institutions de l'État.
Ouais.
Comment voulez-vous nommer certains rebelles qui ont tué, violé à des fonctions ministérielles? Comment voulez-vous? Nous ne nous basons sur ça pour dire que le président Touadéra n'a pas respecté la Constitution centrafricaine. Nous ne parlons pas du fait que la République centrafricaine soit agressée. Nous parlons que les derniers décrets qui ont été signés. Comment voulez-vous nommer à des postes de responsabilité des personnes qui ont attaqué, agressé le peuple centrafricain? Comment voulez-vous que les bourreaux d'hier deviennent les dirigeants d'aujourd'hui?
Voilà.
Comment voulez-vous?
Oui, oui, c'est justement la question. Est-ce que sur ce point précis, hein, M. Dimbele Nakoué, l'opposition n'a-t-elle pas raison? L'opposition démocratique n'a-t-elle pas raison si des décrets sont pris en violation des dispositions de la Constitution?
Je vous disais tout à l'heure ici qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, et le gouvernement, et le peuple centrafricain, toute la classe politique centrafricaine était à la croisée des chemins. Il fallait faire un choix pour sortir ce pays-là de la situation où il se trouve présentement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Notre armée, ce n'est un secret pour personne. Sommes-nous aujourd'hui capables d'aller en guerre contre ces gens-là? Est-ce que nous le pouvons? Tous les Centrafricains savent que c'est impossible. Je vous ai dit que la mission Sangaris était dans ce pays-là. Cette mission-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné la RCA et est partie. La RCA est restée dans sa situation. Aujourd'hui, il y a la MINUSCA. Tous les Centrafricains conviennent de dire qu'il y a certains contingents de la MINUSCA qui ne remplissent pas la mission qui leur est assignée.
Mais est-ce que la MINUSCA a reçu...
Je suis en train de répondre à votre question.
Oui, oui.
Aujourd'hui, nous sommes devant un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il continuer la guerre ou négocier? Nous avons opté pour la négociation. Il faut négocier avec les gens. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons négocié avec des Centrafricains. Je vous ai donné des exemples d'ailleurs. Je vous ai dit au Sud-Soudan, c'est la même situation qu'en République centrafricaine. Ils sont allés négocier. La solution était de former un gouvernement où tout le monde retrouverait sa place. Ailleurs, c'est la même chose. Et en Centrafrique, lorsque nous sommes allés à Khartoum, tout le monde était là. Tout le monde était à Khartoum. Nous tous, nous étions à Khartoum. Nous avons pris connaissance de ces actes-là et on a accepté. Alors, une des dispositions de l'accord de Khartoum, c'est de mettre en place un gouvernement inclusif. Et j'animais un séminaire-atelier au siège de la CEMAC à Bangui. Il y a de ceux-là qui posent ces questions-là aujourd'hui, qui parlent des violations aujourd'hui, qui étaient dans la salle. Entre autres questions posées, ils ont dit que le chef de l'État était déjà en train de violer les dispositions de l'accord de Khartoum parce que le gouvernement inclusif n'était pas encore mis en place. Ce sont ces mêmes Centrafricains-là qui aujourd'hui parlent de la violation. Parce que selon eux, il a été dit dans l'accord de Khartoum que immédiatement avant la signature de l'accord de Khartoum, il fallait mettre le gouvernement inclusif en place. Le président a donc respecté les dispositions de l'accord de Khartoum. Il fallait mettre un gouvernement inclusif en place. Maintenant, posons-nous cette question-là. Est-ce que la mise en place de ce gouvernement inclusif, est-ce que la nomination de ces compatriotes-là à ce poste ministériel les épargne de toute poursuite judiciaire? Je dis non.
La réponse est non, justement.
Je dis non, puisque dans le même accord, l'amnistie a été rejetée. Dans ce même accord-là, ils sont là parce que l'un des motifs qu'ils ont invoqué depuis 2012 pour prendre les armes contre les autorités de Bangui de l'époque et aujourd'hui pour cette guerre-là est qu'ils sont exclus de la gestion des affaires publiques. Ils sont exclus et de la gestion des affaires publiques que sur la route, ils sont arrêtés, il n'y a pas de respect pour eux. Alors le serment du président dit qu'il doit chercher tous les moyens pour assurer l'intégrité du territoire national, pour assurer la sécurité des Centrafricains. En contrepartie, les gens là disent, si nous allons dans le gouvernement, si nous partageons avec vous, si nous signons cet accord-là, voilà, nous renonçons à la résolution des problèmes par les armes, nous renonçons à la crise, nous allons contribuer pour mettre fin à cette crise-là.
D'accord, merci à vous, honorable monsieur Lojkoy. Aujourd'hui, quand on suit un peu ce raisonnement de monsieur Dimbele Nakoué, il faut se faire violence au nom de la paix pour un peu toucher et gratter les dispositions de la Constitution de la République centrafricaine. Vraiment, au nom de la paix, il faut se faire violence. Mais aujourd'hui, on se dit aussi que les juges de la Cour constitutionnelle sont les garants de cette Constitution et quand Sud. Des voix s'élèvent pour dénoncer des actes de violation de la Constitution en cours. On pense que ces juges-là ne font pas leur travail. Est-ce que vous confirmez que les juges de la Cour constitutionnelle aujourd'hui ne font pas leur travail, laissant libre choix au chef de l'État, à son équipe, de toucher la Constitution en violant par exemple l'article 28 ?
Monsieur Hippolyte, les juges, si aujourd'hui, pour agir, il faudrait qu'il y ait une matière. Voulez-vous qu'un juge se lève un matin alors qu'il n'y a pas matière à débattre, il n'y a pas de sujet à débattre, et se lever un matin pour créer, inventer que non, il y a eu violation de constitution, mais il faudrait bien que cette violation de constitution soit établie.
Oui, mais c'est et établi. L'article 28, vous avez suivi, M. Congo l'a évoqué. J'ai parlé également de M. Joseph Bindunga qui a attaqué cet article-là devant la Cour constitutionnelle, qui malheureusement a été débouté.
Oui, mais ce qu'il a fait ne constitue en rien
c'est
pour moi
un citoyen centrafricain.
Oui, qui c'est un citoyen, je le respecte en tant que citoyen. Ouais. Et c'est son devoir, c'est ton droit plutôt, de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle.
Absolument.
C'est comme votre droit, c'est comme le mien, comme n'importe quel centrafricain aujourd'hui. Mmh. Et ça fait partie des dispositifs, des mécanismes de contrôle démocratique de la Constitution. Mmh. Et alors, si M. Bindunga agit de cette façon, ce n'est que son droit, ce n'est que l'expression de son droit et la Constitution le lui permet. Mmh. Et voilà encore la manière avec laquelle nous conduisons les choses, nous faisons les choses. C'est ça qui détermine effectivement si on est dans la légalité ou dans l'illégalité. Mmh. Aujourd'hui, si on accuse le chef de l'État d'avoir violé la Constitution, je reviens sur votre question. Ceux qui pensent qu'il y a eu violation, ils n'ont qu'à saisir la justice. Mais comme Bindunga avait saisi la justice, mais les juges se sont prononcés. Ils se sont prononcés et je pense que c'est leur devoir. Ils l'ont fait. Voulez-vous que les juges inventent une quelconque violation pour dire que le chef de l'État a violé la Constitution, on va mener tel... Non, je pense que la Constitution est claire. Il y a séparation de pouvoir. Le chef de l'État, qui est le chef de l'exécutif, gouverne avec son gouvernement, il y a la représentation nationale qui légifère et il y a le pouvoir judiciaire qui effectivement exerce un contrôle, n'est-ce pas, constitutionnel par rapport à toutes les actions menées par-ci par-là. À mon humble avis, je pense que le respect de cette séparation de pouvoir est strict dans notre pays. À un moment donné, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Compte tenu de l'évolution politique de notre pays, nous avons vu plusieurs présidents passer à la tête de ce pays. Nous avons connu plusieurs constitutions. Mais aujourd'hui, nous avons un président de la République qui a été élu sur la base de cette constitution. Nous sommes revenus à l'ordre constitutionnel après tant d'années de soubresauts. Et nous voyons comment le chef de l'État est en train de mouiller le maillot pour pouvoir ramener la paix. Parce que la priorité aujourd'hui, c'est la paix. Ramener la paix. Si on fait ça, les gens critiquent. Si le chef de l'État fait ci, les gens critiquent. Mais finalement, comme il avait dit le 28 avril lors d'une rencontre avec les forces vives de la nation, que voulons-nous ? Que voulons-nous en Centrafrique ? Et c'est ça, je vais vous dire, c'est ça qui a inspiré le titre du livre dont je viens de boucler le manuscrit. Que voulons-nous en Centrafrique ? On fait ci pour satisfaire les gens, on critique, on fait ça, mais je ne comprends absolument rien. Et c'est pour cette raison que je vais tout simplement dire, Hippolyte, le chef de l'État n'a nullement violé la Constitution, et je le dis en toute sincérité, sauf si on me rapporte une seule preuve, jusqu'alors, ce n'est pas encore le cas.
Vous êtes acteur de droit, vous le dites en
tant qu'acteur de droit. Je pense que, ici, je voudrais me mettre dans le manteau, n'est-ce pas, d'un centrafricain lambda. Et de comprendre la réalité des choses. C'est bien beau de dire que Hippolyte a fait ça. Mais quelle est la preuve ? Moi, je m'en tiens à ça.
Merci à vous, M. Koy. Oui, je vois, M. Honorable Djibélé, que vous voudrez rebondir.
Le fameux article 28 en question, c'est dit que les auteurs, co-auteurs et complices des actes visés aux alinéas 1 et 2 sont interdits d'exercer toute fonction publique dans les institutions de l'État. Il y a également toute personne physique ou morale qui organise des actions de soutien ou fait diffuser des déclarations pour soutenir un coup d'État, une rébellion ou une tentative de prise de pouvoir par mutinerie ou par tout autre moyen est considérée comme co-auteur. Je voudrais rappeler que cette disposition-là se trouvait déjà dans la Constitution de décembre 2004. Je voudrais rappeler également que certains centrafricains qui aujourd'hui s'agite était dans le gouvernement de Ndoto Dia, qui avait pris le pouvoir par les armes.
En 2013,
qui était chef de rébellion. Le Benunga qui a porté plainte contre le chef d'État d'aujourd'hui pour violation des dispositions de la Constitution. Il était déjà dans le gouvernement de ceux-là qui sont venus violer la Constitution de 2004.
Mais il a quand même démissionné de ce gouvernement.
Il a déjà été membre. Je voudrais dire, je soutiens, Benunga c'est un Centrafricain comme tout autre. Mais la question de droit qui se pose, est-ce qu'un acte politique tel que l'accord de Khartoum peut être déféré? Est-ce que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître des affaires liées au contenu d'un tel acte? Vous voyez, l'accord de Khartoum, c'est un acte politique. L'accord de Khartoum est soutenu par toute la communauté internationale. C'est simplement un moyen pour sortir la RCA de la situation où elle se trouve en ce moment. C'est un moyen politique.
Merci.
C'est un moyen politique. Et si vous pensez qu'il y a eu violation, mais le serment du chef de l'État que je viens de vous lire, le chef de l'État est garant de l'intégrité du territoire national. Le chef de l'État est garant de la sécurité. Le chef de l'État est garant de la protection des Centrafricains. C'est un moyen, c'est un outil que tous les Centrafricains devaient utiliser. Au contraire, moi, à mon avis, on devait applaudir cet accord-là et obliger ceux qui sont en face, alors que le président de la République, le gouvernement est en train de mettre en œuvre ses engagements, parce que c'est un accord sinalagmatique, hein. Sinalagmatique parce qu'il y a des engagements réciproques. Il y a des engagements du chef de l'État, du gouvernement. Il y a également les engagements des groupes armés. Il faut que les Centrafricains, maintenant, s'unissent pour demander plutôt aux groupes armés qu'eux aussi, ils commencent à mettre en œuvre le contenu de cet accord-là, comme le fait le gouvernement.
Merci, honorable Batimbélé. Alors, M. Gaëtan Kongo, maintenant, oui, je vous donne justement la parole, hein, mais à travers cette question, justement, au regard des raisonnements développés par M. Koy et honorable Batimbélé ici présent, violation de constitution, oui, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un mal nécessaire, vu que la cause visée est la paix en Centrafrique?
Comme ce que j'avais dit tout à l'heure, donc on est en train de nous dire au fait que donc, pour avoir la paix, on doit violer la Constitution.
C'est pas ce qu'on a dit.
Quand on nous dit que les accords de Khartoum sont un accord politique, où avez-vous vu un accord politique qui est au-dessus de la Constitution d'un pays? Nous ne parlons pas de l'accord politique de Khartoum. Nous parlons des décisions qui ont été prises par le président de la République, notamment les décrets. Les décrets qui ont nommé des chefs rebelles à la primature, qui ont nommé des chefs rebelles au cabinet du chef de l'État. Nous ne remettons pas en cause les accords de Khartoum qui ont déjà été signés. Nous parlons des faits, nous apportons des preuves. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler. S'il vous plaît, de grâce, laissez-moi finir.
Continuez, s'il vous plaît.
Nous appuyons sur l'article 28 qui est clair et net. Clair, net et précis. Vous parlez des accords de Khartoum. Mais Khartoum, c'est Khartoum. On ne va plus revenir sur Khartoum. Mais n'aurait-il pas fallu, peut-être, imposer à ces chefs rebelles qui ont eu sang sur les mains qu'ils puissent désigner des personnes saines? Comment voulez-vous que M. Ali Zarafa, qui a tué, violé, puisse être nommé ministre conseiller à la primature? Mais soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. Soyons un peu sérieux. Dans certains, on ne remet pas les accords de Khartoum en question. Aucunement. On remet en question les décisions qui ont été prises par le président de la République, notamment tous les décrets qui ont été signés à la va-vite.
Oui, mais M. Kongo...
Je me pose la question, je me demande bien si ces décrets, il est stipulé dans la Constitution, que le Conseil d'État donne son avis sur les projets et propositions de loi ou des projets de décrets. Est-ce que ces décrets-là ont été soumis au Conseil d'État? Je pense que si ces décrets étaient soumis au Conseil d'État, le Conseil d'État aurait stipulé que ces décrets violent la Constitution. J'aimerais bien comment ça se passe au niveau du cabinet du chef de l'État. On a demandé avis au Conseil d'État.
Merci à nous, vous avons suivi justement. Nous allons donc évoluer. Nous avons largement parlé de cet article 28. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également l'article 58, je l'avais tantôt dit, hein, qui fait allusion à la déclaration du patrimoine des personnalités qui sont nommées à des postes de responsabilité dans le gouvernement ou encore à la présidence de la République ou dans d'autres institutions. Qu'est-ce qui explique le fait que toutes les personnalités ne veulent pas déclarer leurs biens conformément à l'article 58 de la Constitution, violant allègrement cette disposition de la loi? Honorable Dumbuya Nakoui, vous êtes à l'Assemblée nationale. Pourquoi cette disposition n'est-elle pas respectée?
Ok, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur ce que disait
Monsieur Kongo.
Je voudrais lui dire que je suis content d'apprendre qu'il soutient l'accord de Khartoum, qu'il ne remet pas en cause l'accord de Khartoum. Et je lui dis simplement que les décrets dont il parle sont les actes de mise en œuvre de cet accord de Khartoum. les personnalités Ali Daras, Al Khatim et autres qui sont nommés au cabinet du Premier ministre ne sont pas nommés comme membres de ce cabinet-là. Dans l'accord, il se trouve que dans cet accord-là, il y a une unité spéciale mixte de sécurité pour sécuriser les couloirs de transhumance. Et dans cet accord, il a été dit, puisque les groupes armés qui sont sur le terrain et que, entre autres causes majeures de la crise en Centrafrique, c'est justement la transhumance des éleveurs venant de l'extérieur de la République centrafricaine armée pour protéger et les éleveurs et leurs bœufs. Et donc, pour mettre fin à ce tas de choses, il faut constituer des unités spéciales mixtes de sécurité composées des FACA, des anciens membres de groupes armés et de la MINUSCA. Voilà. Et donc, ces membres-là qui sont conseillers, qui connaissent mieux le terrain, ils sont nommés auprès du Premier ministre pour que le Premier ministre ait l'œil sur eux.
Alors, sur cette précision, est-ce que vous avez une objection, M. Congo, ou c'est clair pour tout le monde? On peut passer à la question suivante.
Mais je ne vais que me répéter.
Oui, d'accord. L'article 58 également qui souffre de non-respect aujourd'hui.
Très peu de partenariats. J'ai vu dans votre propos liminaire, là, dans votre petite analyse, que vous parlez des ministres, du Premier ministre, qui n'ont pas encore déclaré leur...
Leur bien,
leur patrimoine. Ouais. Il se trouve que l'article 53 de la Constitution dispose que le Premier ministre, donc le gouvernement, est responsable à la fois devant le président de la République, chef de l'État, et devant l'Assemblée nationale. Et que pour ce faire, pour que le Premier ministre rentre effectivement en fonction avec son gouvernement, il faudrait que tous, ils aillent à l'Assemblée nationale et qu'ils reçoivent l'onction, la confiance de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, nous avons plein de projets de loi qui sont prêts pour être débattus en plénière, mais ces projets de loi attendent le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, que les députés lui donnent leur confiance, et à partir de là, le Premier ministre aura l'entière légitimité avec l'ensemble de son gouvernement. Et ils vont commencer à déclarer leur patrimoine.
Oui, mais pour le Premier ministre actuel, cela peut valoir. Mais il y a un Premier ministre sortant qui ne l'a pas fait.
Bon, mais ça, je ne suis vraiment pas au courant de ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ces ministres-là, ce gouvernement-là, n'est pas encore sûr de son existence parce qu'ils peuvent arriver à l'Assemblée nationale et si les députés votent une motion de défiance, ce qui ne se fera pas, je ne le souhaite pas, parce que nous avons envie de préserver la sécurité dans notre pays et la paix, soutenir ce gouvernement-là. Et donc, vous voyez, il faudrait un peu de patience.
D'accord.
Je pense que nous, Centrafricains, nous avons trop souffert. Beaucoup de viols, beaucoup de tueries, beaucoup de cadavres, beaucoup de sang. Et nous devons mettre fin à tout cela. Et les élections s'approchent. Que chacun aiguise son arme pour la campagne électorale. Mais attendons. Attendons, vraiment, non.
Vous placez cela sous le signe de...
Il faut que les enfants qui sont à l'école aujourd'hui, donnons-leur la chance de finir leurs études, de travailler comme nous. Mais c'est toujours les mêmes. Hein, c'est pas sérieux.
Pour des questions d'ordre normal dans le fonctionnement d'une société, d'un pays, vous pensez que c'est des campagnes électorales, des campagnes de dénigrement électoral?
Non, mais parce que vous savez, quand on parle d'auteur, co-auteur, tout et tout, moi je rigole. Ah. Parce que si on doit parler de co-auteur, vous avez lu, s'il vous plaît, le livre de Bodigumba. Ils sont nombreux, ces co-auteurs.
Bien sûr.
Ils sont nombreux. Ouais. Il n'y a pas que les Séléka. Si on doit traduire, si on doit interdire à tous ces gens-là de travailler. Mais ils sont nombreux.
D'accord.
Mais ils sont nombreux. Mais ouais, je pense qu'à un moment donné de la vie de notre pays, nous devons nous asseoir tous, comme on a fait au Soudan du Sud, comme on a fait en Afrique du Sud, comme on a fait ailleurs. Nous devons nous asseoir tous pour dire plus jamais ça.
Merci à vous,
ensemble,
honorable.
Ensemble, on chante l'hymne national et nous nous retournons vers l'avenir de notre pays.
Merci, honorable Djimbélé. Monsieur Gaëtan Congo, sur cette question précise de l'article 58 de la Constitution où certaines personnalités de la République, beaucoup d'ailleurs, ne déclarent pas leurs biens conformément à ces dispositions de loi, comment vous appréciez cela?
Je viens d'entendre la réponse de Monsieur Mathurin Djimbélé Ndakoué et je suis stupéfait que le second vice-président de l'Assemblée nationale puisse, on va dire, excuser le fait que la Constitution, encore une fois, l'article 58, ne soit pas respecté par les députés de la nation.
C'est pas ce que j'ai dit.
Ceux qui sont censés voter les lois. Vous les avez excusés.
Si, non, c'est pas ce que j'ai dit.
Bien entendu, vous les avez excusés. Comme ce que l'a stipulé M. Hippolyte Marbois. M. Hippolyte Marbois n'a pas parlé du nouveau gouvernement. Il a parlé du gouvernement de M. Sarandi. C'est-à-dire que M. Sarandi, qui a été nommé alors qu'il est stipulé, il est stipulé qu'avant leur entrée en fonction, le Premier ministre et les membres du gouvernement font chacun, en ce qui leur concerne, une déclaration écrite de patrimoine déposée au greffe de la Cour constitutionnelle qui la rend publique dans les 8 jours. 8 jours, c'est-à-dire que quand on est nommé le premier, le 9 au maximum, on aurait dû faire cette déclaration de patrimoine. Il n'y a que 2 qui l'ont fait. N'en parlons même pas des députés. Là, quand on va dire que certains violent la Constitution, quand on va dire que certains,
je ne sais pas, dans quel journal officiel la déclaration a été faite par la Cour constitutionnelle.
Il y a certains de vos collègues qui ne l'ont pas fait, honorable.
Il y en a 13.
Mais la presse trouve où ? La presse va à la Cour constitutionnelle.
Bien sûr.
La source, c'est la Cour constitutionnelle.
Oui, justement.
Mais pourquoi ? Je me souviens bien que quand certains députés n'ont pas déposé leur patrimoine, leur déclaration de patrimoine, la Cour constitutionnelle a saisi l'Assemblée nationale officiellement. Et a dit que certains députés jusque-là n'ont pas déclaré leur patrimoine. Et le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué ces collègues-là et leur a signifié la déclaration de la Cour constitutionnelle. Ces collègues-là se sont mis à l'œuvre et ces collègues-là se sont mis en règle.
Et ça devrait être
la même chose pour le gouvernement. Vous dites le gouvernement s'arrangit. Vous savez, excusez-moi de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Excusez-moi.
Vous parlez au peuple centrafricain, pas à M. Congo, s'il vous plaît.
Non, je ne parle pas à M. Congo. Je dis simplement que il faut se rappeler également du fonctionnement de certaines de nos institutions. Il faut se rappeler de ça. Parce que, à mon avis, comment un secret tel que celui-là, parce que pour moi c'est un secret, un secret tel que celui-là peut se trouver dans la presse.
Honorable, si vous permettez, sur ce point précis, je relève que ce n'est pas un secret.
C'est un secret.
Non. La loi fait obligation.
Pourquoi la Cour constitutionnelle,
si vous permettez,
pourquoi la Cour constitutionnelle préfère donner ces renseignements-là à la presse au lieu de saisir le gouvernement, le chef de l'État ou le Premier ministre pour dire que jusque-là, certains membres du gouvernement n'ont pas encore déclaré leur patrimoine au lieu de saisir la presse.
S'il vous plaît, honorable, je me permets de le dire que la loi fait obligation à la Cour constitutionnelle de rendre public
Donnez-moi le seul numéro. Je sais, la loi le dit. Donnez-moi l'article
58.
Je suis d'accord avec vous. Je ne nie pas l'existence de cet article-là.
Où se trouve le secret?
Je ne nie pas l'obligation. Je dis simplement que je vous ai donné tout à l'heure un exemple. Lorsque, au début de la législature, il a été signifié en plénière que les députés doivent déclarer leur patrimoine, il a été fait et envoyé à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a pas reçu la déclaration de patrimoine de tous les députés. Ouais. Cette Cour constitutionnelle a saisi le bureau de l'Assemblée nationale avec la liste des députés qui n'avaient pas encore déclaré leur patrimoine. Ils l'ont fait. Ils se sont mis en règle. Alors, je veux savoir où est le journal officiel dans lequel la Cour constitutionnelle a rendu publique cette déclaration-là. Où ?
La même obligation est faite au gouvernement.
Alors pourquoi la Cour constitutionnelle n'a pas saisi le gouvernement à cette fin pour dire que, attention, il y a des ministres qui n'ont pas encore fait leur déclaration?
Peut-être qu'elle l'a fait.
Non, au lieu de donner l'information au jour, au lieu d'aller à la
presse. En quoi cela vous gêne aujourd'hui si cette information se trouve dans la presse?
Non, aujourd'hui, je suis gêné. C'est comme si à la présidence de la République, c'est comme si en Dekeluka, ici, vous avez des secrets. Il n'y a pas de secrets, justement.
Parce que nous, la loi nous donne. Donne pourquoi, obligation pour, d'aller chercher ces informations et de mettre à disposition du public. Pourquoi, apparemment, ça vous gêne. En quoi cela vous gêne? Du moment où la loi est claire là-dessus.
Je sais que la loi est claire.
Oui.
Je sais que la loi est claire. Et j'ai dit, pourquoi entre saisir le gouvernement pour dire, attention, il y a des membres de votre gouvernement qui ne se sont pas encore mis en règle par rapport aux dispositions de l'article 58. C'est clair. La Cour constitutionnelle a le devoir de le faire.
D'accord, ça c'est une démarche.
Ça c'est une démarche.
Une autre démarche aussi.
Au lieu de mettre ça à la disposition de la presse, pourquoi la presse en fasse quoi?
Parce que pour que le peuple sache ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Pour que le peuple sache aujourd'hui, parce qu'on savait des personnalités.
Pour que la presse se mette dans une campagne de dénigrement du gouvernement, de dire qu'il y a violation de la Constitution, il y a ceci, il y a cela. Moi je pense qu'en agissant ainsi, ce n'est pas normal. Quand bien même que ce soit un devoir, ce n'est pas normal.
Monsieur. C'est quoi le rôle de la presse sur l'article 58 hein, écoutez, le troisième co-débatteur, M. Eloge Dokprovekoy. Et aujourd'hui, nous parlons justement de la violation de cet article 58 hein, qui fait obligation aux personnalités de la République de déclarer leur patrimoine. Cela ne semble pas se faire. Est-ce que vous êtes au galopement regardant là-dessus ?
Hippolyte, c'est une disposition constitutionnelle à laquelle tout le monde est obligé de se soumettre, certes. Mais moi, je pense qu'il y a des sujets brûlants. Il y a des questions de sécurité, il y a des questions sociales. Aujourd'hui, on parle de la pénurie d'eau, mais évoquons des sujets importants. La déclaration de patrimoine, oui,
ça,
c'est quoi ?
Ça relève de la gouvernance, c'est crucial.
C'est vrai, c'est crucial.
C'est crucial. Fondamental, au même degré que la sécurité.
Mais, et moi, je pense que ce n'est pas un certificat d'honnêteté. Si vous voyez, quelqu'un veut cacher, mais la transparence, il n'en a rien à cirer. Alors, s'il veut cacher quelque chose.
Si vous permettez,
donc, les déclaration,
les frustrations oui. qui ont conduit aujourd'hui à des conflits armés ne relèvent pas de cela.
Mais non, non
quand
aucunement.
Il y a des détournements, il y a des.
D'accord, je suis d'accord avec vous qu'on parle de détournement, qu'on condamne ça. Mais vous pensez que le simple fait de faire une déclaration de patrimoine constitue un certificat d'honnêteté
bien sûr,
et c'est... que mais si la personne veut cacher, il n'en a rien à cirer. Moi, je dis une chose. Je vais dire une chose.
Oui, s'il vous plaît.
Le fait de déclarer le patrimoine, moi, ça me gêne. Ça me gêne pour la simple raison que, de fois, ces biens ne proviennent pas uniquement de fruits de travail de la personne qui est obligée, n'est-ce pas, de faire cette déclaration. Des fois, ça, il y a également le travail de sa femme ou bien de son mari.
Ou l'héritage de la famille.
Ça peut faire le bien de la famille. Vous voyez, et il y a des enfants qui sont concernés, il y a son épouse ou bien son époux qui sont... Alors qu'eux, ils ne sont pas des élus, ils ne sont pas des hauts fonctionnaires, ils ne sont pas... Et je dis aussi une chose, si on doit absolument parler ou maintenir cet article dans notre constitution, mais il faudrait l'élargir à d'autres corps de l'État, les patrons d'organisation. Tout ce monde-là, ils doivent faire partie des gens qui sont obligés de déclarer leur patrimoine. Mais moi, je dis tout simplement une chose, c'est que la déclaration de patrimoine, si aujourd'hui l'État centrafricain, si certains hauts fonctionnaires, si il y a certains élus qui n'ont pas encore fait cette déclaration, c'est peut-être normal d'évoquer ça. Mais moi, je reviens sur l'essentiel. Nous sommes dans une situation que je dirais même d'exception. Et dans une situation d'exception, vous voyez, on ne doit pas considérer des faits mineurs. Mais évoquons, certes, vous parlez de la bonne gouvernance, de la transparence, ça c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas le simple fait de faire une déclaration de patrimoine qui va justifier, hein, n'est-ce pas, cette transparence. Mais concentrons-nous sur l'essentiel. Et aujourd'hui, l'essentiel, c'est la sécurité des Centrafricains. C'est de fournir aux Centrafricains les besoins fondamentaux. Et je crois que c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Et il faudrait qu'on soutienne ses actions que de verser dans la distraction.
Merci à vous. C'est votre avis, M. Koy, honorable Djimbelena Koué. Je ne sais pas si vous partagez cet avis en votre qualité de député qui a la responsabilité de contrôler les actions du pouvoir, qui veille, n'est-ce pas, à la bonne gouvernance, hein, à la bonne gestion de la chose publique. C'est aujourd'hui une catégorie de personnes qui profitent de leur privilège de détourner des biens de l'État et qui s'enrichissent sur le dos du peuple. Pour vous, vous pensez aussi que c'est naturel ?
J'ai dit, dans ce pays-là, de cette constitution, il a été créé plusieurs institutions dont le rôle est de contrôler l'action du gouvernement. Vous voyez, de contrôler les biens mal acquis. Moi, je ne suis pas contre l'existence de l'article 58 de la constitution. Je sais que nous avons tous l'obligation de nous soumettre aux dispositions de cet article. Mais ce que moi, je ne comprends pas, c'est la démarche. Un gouvernement est mis en place. La Cour constitutionnelle est chargée de recueillir la déclaration du patrimoine des membres de ce gouvernement-là. Comme elle a fait pour l'Assemblée nationale, elle aurait fait la même chose pour le gouvernement. Et la Cour constitutionnelle sait qu'un des rôles de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle des Absolument. Actions gouvernementales.
Ouais.
Et alors, la Cour constitutionnelle pouvait saisir l'Assemblée nationale pour dire ce gouvernement qui a été mis en place jusqu'à ce jour, ses membres n'ont pas encore fait la déclaration de leur patrimoine. Et moi, je pense l'Assemblée nationale aurait pu appeler les membres du gouvernement pour leur dire « Nous venons de recevoir une lettre de la Cour constitutionnelle faisant état de ce que les membres du gouvernement que vous êtes n'ont pas encore fait la déclaration de leur patrimoine. Nous avons une séance de questions orales au gouvernement, questions orales, questions écrites au gouvernement, tous les mercredis. Donc, pendant cette séance-là, on aurait pu contacter le gouvernement et poser la question directement au Premier ministre pour que le Premier ministre demande à ses ministres de faire la déclaration de leur patrimoine. Mais j'ai dit que, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons reçu aucune lettre de la Cour constitutionnelle en ce sens.
D'accord,
sauf que, pour les députés, la Cour constitutionnelle a saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour faire état de ce que certains députés n'ont pas déclaré leur patrimoine. Et nous avons demandé aux collègues de se conformer aux dispositions de la Constitution. Ce qu'ils ont fait. Maintenant, ce que moi je déplore, est qu'une histoire de ce type, d'une très grande importance, au lieu de s'ouvrir la courbe normale, se retrouve subitement dans la presse. Et nous voyons, je ne dis pas que ça ne devait pas se retrouver dans la presse. Je ne le dis pas. Mais je dis qu'en se retrouvant dans la presse, voyez les conséquences que cela amène aujourd'hui.
Aucune conséquence.
Non, il y a des conséquences. Je suis d'accord avec mon voisin d'en face. C'est qu'aujourd'hui, la presse, en publiant ça, c'est le rôle, c'est le rôle de la presse d'informer. C'est le rôle de la presse d'informer. Mais
et de contrôler aussi.
C'est un pouvoir,
la gestion du pouvoir.
Oui, c'est un pouvoir. Mais certaines personnes s'en ont saisi pour faire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors que ces mêmes personnes-là, je pose la question de savoir, est-ce que ces mêmes personnes-là ont fait la déclaration de leur patrimoine à l'époque?
Ces mêmes personnes aussi ont le droit d'aller directement au greffe de la Cour
nationale
et de prendre ces informations.
Voilà.
Merci à vous, honorable. Nous allons terminer. Alors, nous terminons le débat, Monsieur Gaëtan Congo. Aujourd'hui, c'est vrai que certaines dispositions de la Cour constitutionnelle souffrent d'application. Nous avons suivi que c'est au nom de la paix qu'il faut en arriver là. Aujourd'hui, pour vous, vous pensez qu'il y a une chance de considérer la conscience centrafricaine dans tout son pouvoir, dans toute sa souveraineté?
Vous savez, nous voulons tous la paix, que ce soit Monsieur Djimbéli Nakoué et Monsieur Koy. Je pense que de ce côté-là, on est du même avis. Qui ne veut pas la paix? Qui ne veut pas voir la Centrafrique avancer? Qui ne veut pas voir la Centrafrique se moderniser? Nous pensons que de ce côté-là, nous sommes du même avis. Mais il est aussi important de respecter la Constitution qui est la loi fondamentale d'un pays. On ne peut pas se permettre chaque 4 matins comme ça, ne pas la respecter. C'est tout à fait normal. Nous, ce que nous demandons, c'est que la Constitution soit respectée par le premier garant, qui n'est autre que le président de la République. Tout simplement.
Merci.
Qui puisse la respecter dans ses actes, dans ses prises de décision. Nous voulons la paix. Nous travaillons tous pour la paix. Même à l'étranger, ce que nous faisons, en étant dans l'opposition, nous opposons pour la paix. Mais si le président Touadéra pose des actes concrets qui font avancer le pays, nous dirons bravo. Nous ne critiquons pas pour critiquer. Nous invectivons pas pour invectiver. Non, bien au contraire. Nous cherchons un équilibre. Nous voulons la prospérité du peuple centrafricain. Nous voulons la paix, la réconciliation. Mais bien aussi le respect de la Constitution par le président de la République, les ministres, les députés. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous aspirons.
Merci à vous, M. Gaëtan Congo. Nous terminons avec vous, honorable Djimbéli Nakoué, aujourd'hui. Vous rassurez que la conscience centrafricaine n'est pas en train de chavirer.
J'ai dit non. Et je vous ai lu ici le serment du président de la République. Je vous ai lu ce serment-là. Objectivement, le président de la République, le serment dit que le président a l'obligation de protéger l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. Le président a l'obligation d'assurer la paix dans ce pays-là, d'assurer la sécurité du peuple centrafricain. Et qu'il doit agir en ne pas tenir compte, en ne tenant pas compte, s'il vous plaît, de son appartenance ethnique, de l'appartenance religieuse, etc. Et nous savons tous que l'une des causes majeures de la crise que nous vivons aujourd'hui est que nos amis, nos compatriotes pensent que jusqu'à une période relativement récente, ils ont été exclus de la gestion publique. Voilà, c'est de voies et moyens que tout le monde est en train d'explorer pour amener la paix, la sécurité, le vivre ensemble, la cohésion sociale en Centrafrique. Posons-nous la question, s'il n'y avait pas cette crise-là, est-ce qu'on ne devait pas nommer ces compatriotes-là dans le gouvernement? On devait les nommer. Je vous ai dit tout à l'heure aussi que, parlant de l'article 28, on parle de complices, de co-auteurs et des auteurs. Je vous ai dit, lisez le livre de Mboli Goumba. C'est assez élogieux, c'est assez éloquent dedans là. On parle de ces gens-là. Alors, est-ce qu'on devait dire, alors qu'ils bénéficient encore de la présomption d'innocence, dire que non, non, vous, là, vous avez fait ça. Ah, non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que nous sommes centrafricains. Tout le monde a été à Khartoum. On a vu ce qui s'est passé là-bas. C'était des difficultés. Il fallait admettre certaines choses. Le contenu de l'accord est en train de mettre en œuvre. Ce qu'on devrait faire plutôt, c'était de soutenir le gouvernement et demander aux compatriotes des groupes armés qu'eux aussi commencent à mettre en application leur engagement en acceptant la dissolution de leur groupe, en acceptant l'ouverture des territoires qu'ils occupent. C'est ça le rôle que les Centrafricains devraient jouer aujourd'hui aux côtés du gouvernement. Au lieu de passer le temps, comme disait mon jeune frère là, hein, à parler de la violation de constitution, tout et tout, ça c'est une perte de temps pour rien.
D'accord, merci à vous, honorable Djimbélé, nous terminons avec vos éloges. Koï, aujourd'hui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter que la constitution est strictement respectée, appliquée par toutes les parties.
Merci Hippolyte. Je pense que le président de la République, dans sa posture de garant de l'intégrité du territoire, de la sécurité, des Centrafricains et tout, peut, et là je crois que la constitution le lui permet, peut prendre des mesures par rapport aux circonstances, peut prendre des mesures pour réguler certaines situations. Et je crois que c'est au nom de ce pouvoir que lui confère la Constitution que le président a accepté d'aller en négociation avec les forces non conventionnelles, avec les rebelles. Et c'est à l'issue de cette négociation qu'il y a eu un accord. Certes, qui n'est pas au-dessus de la Constitution, mais qui permet de pouvoir régler la crise. Puisque la Constitution, son rôle aussi, est de prévoir et de régler les crises qui peuvent intervenir. La Constitution est rédigée pour fournir des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes que peuvent poser le fonctionnement et l'exercice du pouvoir. Et je pense que notre Constitution est bien garantie, notre Constitution n'est pas en danger et elle n'est pas du tout violée. Concentrons-nous sur l'essentiel, ramener la paix définitivement dans notre pays et permettre à notre pays de se relever comme les autres l'ont fait.
Merci à vous, M. Eloge Dokprouvé Koï. Merci à vous, honorable Djimbélé Nakoué. Merci à vous, M. Gaëtan Kongo. Fin de ce débat Patara sur Radio Ndekeluka que vous pouvez également retrouver sur notre site internet au www.radiondekeluka.org. Merci à tous les auditeurs. Herman Nambona, la technique Hippolyte Marbois, l'animation. On vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une autre thématique. We'll be right back.